Bien, mais mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie de votre présence. Étant entendu que nous avons voulu, dans le cadre de la présentation de notre livre « Cestas en grave élan de Girondine », après avoir fait une présentation sur Cestas, où nous avions une importance non négligeable qui était prévue dans ce cadre-là, avec près de 400 personnes qui étaient venues, et puis également donc un tirage de notre livre sur un premier tirage de 3000 qui est pratiquement épuisé. Nous avons pensé qu'il était intéressant, dans la mesure où notre ouvrage, qui est donc un petit peu une monographie sur un village ou une commune de la Gironde, mais s'inscrivait également, naturellement, dans le cadre de l'histoire globale du pays bordelais, et un petit peu de notre région. Et dans ce cadre-là, nous sommes heureux de remercier Denis Mola et puis toute son équipe qui a accepté que ce livre soit présenté dans la librairie Mola, qui, vous le savez, plus que centenaire, est une très belle institution de notre ville de Bordeaux. Et comme l'a dit Monsieur Roger, avec toute une partie qui présente à la fois l'histoire de l'Aquitaine et puis évidemment l'histoire de sa capitale qui est Bordeaux. Dans ce cadre-là, vous me permettrez de rappeler ou d'indiquer que ce livre est le travail d'une équipe avec laquelle nous sommes depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans, qui s'appelle les Amis du Vieux Cestas, et fait suite à un certain nombre de publications, comme dans beaucoup de communes c'est le cas, mais ici nous nous référons à des publications relativement anciennes, et en particulier, vous me permettez de le dire à ce niveau-là, de l'abbé Jaubert, qui était un prêtre et un curé de Cestas à la fin au milieu du XVIIIe siècle, et qui a en particulier collaboré à l'encyclopédie en vivant les dernières décennies de sa vie sur Paris, et qui a fait des ouvrages intéressants, à la fois en traduisant Ozone et puis en faisant un ouvrage sur Cestas. Ensuite, nous avions eu, dans la période, un Cestadet qui a écrit une notice sur notre commune en 1921, et puis une recherche après les incendies de 49 par donc une personne qui faisait une thèse sur le côté un petit peu économique de la commune après ces incendies. Donc ce que nous avons voulu faire, après un travail de près de 30 ans de notre équipe des Amis du Cestas, qui avait démarré après un concours pour Antenne 2 et un travail qui avait été fait relativement important sur l'histoire généalogique de Cestas, puisque nous avons la chance d'avoir en continu depuis 1594 les registres provinciaux, ce qui n'est pas courant. Donc nous avions, pendant ces 30 ans, édité une dizaine d'opuscules sur un certain nombre de sujets qui présentent un intérêt non négligeable dans l'histoire de notre commune. Donc voilà dans quel cadre nous nous sommes retrouvés, après qu'un de nos amis ait également publié un livre sur les cartes postales anciennes, comme c'est fait dans pas mal de communes vis-à-vis de Cestas, que les Amis du Cestas avaient enrichi d'un certain nombre d'éléments écrits. Donc, pour les 30 ans de notre association, nous avons essayé de rassembler le maximum d'éléments, avec beaucoup des membres qui ont cherché chacun de leur côté, et puis donc voulu faire un ouvrage qui à la fois soit illustré, soit un ouvrage sur le quotidien, mais également un ouvrage historique et qui détaille un certain nombre de sujets qui inscrivent donc l'histoire de notre commune dans l'histoire de la Gironde, voire l'histoire régionale. Et dans cette présentation, donc je voudrais principalement insister sur un certain nombre d'éléments qui me paraissent intéressants vis-à-vis de notre ouvrage. C'est d'abord là une certaine continuité de ce qui a été et qui est toujours une réalité sur la commune, c'est-à-dire le charme de la forêt cestadaise. Nous avons beaucoup de girondins qui viennent les retrouver. Ensuite, insister également sur les éléments de solidarité des communautés rurales, qui n'étaient pas tellement nombreuses, mais qui avaient, par rapport aux difficultés des siècles, besoin de montrer une solidarité, une certaine unité pour passer les périodes difficiles en particulier, et ensuite indiquer dans quel cadre nous avons, sans être exhaustif naturellement, des sujets d'intérêt régional. Je pense en particulier à l'évolution des Landes de Gascogne. Un point dont on discute beaucoup également, qui a fait l'objet de chapitres sur des historiens de la ville de Bordeaux, je pense en particulier l'ensemble écrit par Charles Ligounet, sur ce qu'on appelle les relations ville-campagne. Et puis donc ensuite dire deux, trois mots sur ce qui nous a marqué, c'est-à-dire des événements tragiques qui s'inscrivent à la fois au niveau régional avec le drame de 49, au niveau des incendies de forêt, mais également un point sur ce qui est de dimension nationale, dans la mesure où, vous le savez, il a été demandé aux communes de France de préparer pour certaines leur participation pour la commémoration de la Grande Guerre, c'est-à-dire les 100 ans de 1914. Et dans ce cadre-là, nous avons deux ou trois éléments. Et puis, je terminerai en parlant de quelques anecdotes que l'on peut avoir présentées. Je demanderai ensuite à certains de nos amis qui sont ici présents de dire un mot sur les récits du quotidien, en particulier du XXe siècle, qui ont émaillé cet ouvrage. Donc le premier point que je voulais souligner, et qui est un élément de continuité, c'est le charme de la forêt naturelle que nous avons dans notre commune, étant entendu qu'assez fréquemment, ici on indique Graves et Landes girondines, c'est parce que nous avons une partie de la commune qui est, donc, comme vous le voyez ici, dans ce qui sont les Graves, avec Cestas qui est avec un S à l'époque, et puis le reste qui est dans les Landes de Bordeaux. Et dans la partie Grave, ça correspond donc au bassin versant du petit ruisseau qui part de Cestas et qui termine dans la Garonne du côté de Bègles, mais qui au départ faisait également la limite de Bordeaux sur le sud, qui s'appelle l'Aubourde et qui se divise en une dizaine de petits ruisseaux. Et autour de ces petits ruisseaux, nous avons depuis toujours une forêt naturelle de feuillus qui a été décrite par un certain nombre de poètes chroniqueurs à travers les siècles. Et je me permets, parce que ça me paraît intéressant dans la mesure où c'est toujours un point fort de notre commune, d'indiquer ce qui était dit par les uns par les autres. Donc le premier chroniqueur s'appelle Venance Fortuna, qui était donc un chroniqueur de l'époque des Mérovingiens et qui a écrit ici vers 560 sur la villa d'un évêque de Bordeaux qui faisait partie des grandes familles sénatoriales de Bordeaux, la famille des Pontius Léoncius, qui était donc l'évêque qui s'appelait Léonce II, qui avait été au départ évidemment un guerrier avec les rois mérovingiens, mais comme souvent était le chef de la cité, était donc l'évêque. Et Venance Fortuna a terminé sa vie d'ailleurs comme évêque de Poitiers et avait donc écrit: il est un lieu où, quelle que soit l'intensité de la chaleur, la campagne est toujours verte et fleurie, des fleurs aux teintes safranées embaument la plaine des odeurs qu'elles exhalent. Et ça correspond donc à une villa romaine qui était sur Cestas, dont le nom était Besson et qui a continué à représenter quelque chose d'important dans notre commune. Et de la même manière, pour décrire le charme de notre environnement, nous avons une autre personnalité quelques siècles plus tard qui a fait des poèmes, on n'aurait pas idée de cela à partir du moment où c'était le baron Haussmann. Le baron Haussmann est évidemment le constructeur d'abord de Paris, du Paris moderne. Et donc le baron Haussmann était propriétaire avec son épouse d'une propriété importante sur Cestas, qui était le château de Cestas, dans lequel il faisait un bon vin, mais où il aimait énormément l'environnement forestier. Et il a écrit en particulier des poèmes là-dessus, sur les quatre saisons du forestier, avec à la fois les quatre saisons de la forêt, mais également les quatre saisons de l'homme, en indiquant que j'aime nos grands bois quand le printemps s'éveille, secouant de l'hiver le noir manteau de deuil, tout verdit, tout fleuri, tout sent bon, s'émerveille, en quelques jours tout charme et l'odorat et l'œil. Donc ça, c'était, il a vécu une partie de sa retraite, une grande partie sur Cestas, après 1870, il a écrit ses mémoires au château de Cestas. Et pour, dans ce cadre-là, nous avons, puisqu'on est sur Bordeaux ici, dans la ville, un élément qui a été également sur le charme de notre forêt, écrit par, disons là, un Cestadet, qui est l'arrière-grand-oncle de Sophie Davant, qui, comme tout le monde le sait, est originaire de Cestas, qui indique cela. « Les fontaines Rollet ont pour les Bordelais infiniment d'attrait. Ils arrivent, troupes vives, sur la rive du joli ruisseau, dont murmure l'eau sous les arbrisseaux. » Et sans dire l'ensemble, ça se termine par « Les habitants font mécontents. Donnent au diable, c'est les misérables, dont les jeux ont sali le bois frais et joli, et puis ils pensent qu'il faut de l'indulgence, et qu'en ce vaste monde, sur la machine ronde, personne n'est parfait, pas même un bordelais. » Alors j'indique ça parce que c'est quand même joliment écrit, et qu'aujourd'hui, donc, nous avons dans notre commune pu, année après année, avec nos amis voisins de Canéjean, mais également les amis de Gradignan, pu mettre en valeur le ruisseau dont je parle, qui est donc l'eau bourde, et acquérir année après année tous les bords de ce petit ruisseau, qui est extrêmement fréquenté, mais avec des gens respectueux. Là, à l'époque, c'était les sources de Gazinet, qui étaient donc un point de rendez-vous important des Bordelais entre, à partir de 1900 et jusque dans les années 1950 et 1960. Et aujourd'hui, nous avons donc à peu près 1 000 000 d'hectares de promenade avec beaucoup de monde qui vient, et fréquemment, quand je fais mon footing, j'ai plaisir à saluer les promeneurs qui viennent évidemment pour beaucoup de la ville ou des premières banlieues, et de leur dire que naturellement on est très heureux de les recevoir, mais qu'on ne leur fait pas payer d'octroi pour se promener dans nos bois, puisque vous savez que pour rentrer sur Bordeaux, en particulier pour nos anciens qui avaient une relation avec Bordeaux en amenant leurs denrées dans Bordeaux, il fallait payer des taxes ou des octrois. Donc voilà un des éléments de base sur cette histoire que l'on veut présenter. Le deuxième point étant quelque chose qui est important de souligner, qui, je crois, est la même pour la plupart des petites communes rurales de France, c'est donc la solidarité de la communauté cestadaise et le fait qu'ils défendent leurs membres par rapport à l'extérieur, éventuellement, avec une nécessité absolue d'union et d'unité. Alors, il faut le rappeler, vous le savez, jusqu'au siècle dernier, tous ceux qui n'étaient pas d'une paroisse ou d'une commune étaient considérés des étrangers. Et donc, en particulier, même des jeunes décédés sur le territoire de la commune étaient enterrés dans le coin du cimetière réservé aux étrangers. Un jeune de Mios, qui est commune voisine de Cestas, était indiqué comme ça. Et le deuxième élément de solidarité, qui est un point intéressant que nous avons essayé de développer là-dedans, c'est que nous avons la chance d'avoir dans notre commune une continuité avec le manuscrit de ce qui est les comptes de la fabrique de la paroisse. Donc la fabrique de la paroisse, c'est un élément qui est peu connu. correspond à l'ensemble des laïcs, si on veut, qui s'occupent des recettes et des dépenses pour la vie de la paroisse, c'est-à-dire à la fois évidemment pour l'église, mais également pour le cimetière, mais aussi pour aider les pauvres, les malades, et à une certaine période ensuite, pour payer le maître d'école, parce que ça s'est trouvé à partir des années 1690. Et de ce point de vue, disons, ça correspondait un petit peu à ce qui est l'aide sociale maintenant. Et donc, dans ces documents, dans ces éléments de solidarité, il y a évidemment les proximités familiales qu'il faut rappeler, mais aussi la fabrique qui donnait donc du pain, du vin et un boudin. Voilà une présentation des comptes de la fabrique avec les croix de ceux qui ne pouvaient pas savoir écrire pour certains ou signer. Et puis quelques signatures des années 1700 avec le curé de la période de la Révolution qui s'appelle Guitard. Et là-dedans, donc, il donnait du pain, du vin et des boudins, mais on trouve également, évidemment, qu'on payait les médecins qui apportaient des médicaments et qui donnaient des saignées. Donc ce sont des petits éléments sympathiques parce que tout le monde a évidemment connu les médecins de Molière et les saignées. Et dans cette solidarité au niveau de la communauté, il y a la période de la Révolution qui a été particulièrement marquante. Et c'est important de voir que dans la plupart des communes rurales, à travers les différences de classe sociale, ils se sont débrouillés pour éviter que ceux qui étaient intégrés dans la commune, quel que soit leur niveau, ne soient pas ennuyés et ne se retrouvent pas avec la tête en moins dans la période en particulier difficile qui a correspondu pendant toute l'année de la terreur principalement. Et dans certaines communes voisines, ça a pu ne pas être tout à fait comme ça, alors que sur la commune de Sestas, systématiquement, le maire, disons, de la période républicaine des années 1792-1795, a fait donc une lettre au district de Bordeaux pour dire que le curé avait vraiment fait tout ce qu'il fallait pour aider un petit peu, qu'il s'était engagé à ne plus dire la messe, à être un bon républicain, à respecter les lois, et qu'il allait naturellement continuer à donner tout son pouvoir à la République, et en répétant ça une dizaine de fois dans une lettre d'une quinzaine de lignes. Donc c'est un élément important, étant entendu qu'en parallèle, nous avions donc deux curés qui habitaient la commune, qui étaient des chanoines de Saint-Seurin, qui a priori étaient d'un bon niveau, mais là aussi, le même maire, qui était, disons, le troisième maire de la commune, le premier étant, disons, un bourgeois de Bordeaux, mais originaire de Sestas au départ, qui était ancien maître de poste, le deuxième, un laboureur aisé, et ce troisième maire de la période un petit peu plus républicaine, donc à partir de 1792, était quand même un paysan de base, disons. Mais il avait écrit ce qu'il fallait pour aider au mieux ces deux chanoines en disant qu'ils travaillaient la terre, qu'ils ne disaient plus la messe alors que depuis longtemps, alors que très peu de temps avant, leur chapelle personnelle avait été inaugurée. Et à côté de ça, nous avions également deux familles relativement importantes, mais qui vivaient sur Sestas une partie de l'année en continu depuis deux siècles, qui avaient besoin d'être également accompagnées correctement, et qui étaient l'une les Roborel de Climens, qui est donc une famille connue sur Bordeaux et qui était seigneur de Climens donc dans le Sauternais et qui était seigneur de Montsalut, qui est un des secteurs importants de Sestas. Et l'autre famille était une famille Dumas, dont le représentant venait de faire construire par l'architecte Louis le château de Sestas et qui était président de la Cour des Aides. Et ces deux personnes, qui étaient donc les deux premiers privilégiés sur la feuille des impôts de Sestas, une fois qu'ils n'étaient plus exemptés d'impôts, ont fait partie de la garde nationale, alors qu'il y a un capitaine, plusieurs lieutenants, comme sergent-major, pour montrer que c'était des bons républicains et qu'ils participaient bien. Donc ce sont des éléments évidemment intéressants, et dans le même temps, ce besoin d'unité, il y a eu une période de réquisition de la commune de Talence pour avoir la fourniture de seigle sur Sestas, et après avoir commencé à en donner un petit peu, ben, les gens de Talence sont arrivés, et là ils ont trouver aucun responsable de Sestas qui était susceptible de leur donner le complément. Le maire était malade, et ils n'ont pas trouvé d'adjoint et autres. Donc c'est évidemment une période particulièrement difficile, mais qui est importante d'avoir en tête. Et sur la commune, de la même manière, en continuant un petit peu, l'église était le lieu de rassemblement, avec Monseigneur Donnet. Et ça a été un petit peu regretté parce que nous avions une belle église romane qui était présentée ici. Une église style Monseigneur Donnet a donc été réalisée vers les années 1870. Mais ce qui est important à voir, c'est que donc à cette époque-là, nous avions le baron Haussmann qui était sur Sestas la moitié de l'année, et nous avions également Émile Le Perrer qui était propriétaire sur Sestas. Et l'un comme l'autre, le baron Haussmann qui était donc protestant, derrière Émile Perrer, qui était de religion juive, l'un comme l'autre ont fortement participé pour la construction de la nouvelle église, parce que c'était le lieu commun. Et dans le même esprit, un petit élément intéressant donc dans le conseil municipal de 1900, en sachant qu'en 1900, la République avait encore besoin d'être bien accompagnée. Et donc, à cette époque-là, le maire était obligé de donner au préfet les sensibilités politiques des membres du conseil municipal. Par contre, à Sestas, il y avait eu en 1890, quelques années avant, un premier tour où, disons, il y avait eu plusieurs candidats de sensibilités différentes. Mais en 1900, ils avaient fait une liste un petit peu d'union, rassemblant des hommes de qualité marqués exempts de l'esprit de parti. Et donc, pour montrer le niveau de rassemblement, en indiquant les sensibilités politiques, dans l'équipe, il y avait 10 républicains, 3 réactionnaires et 3 douteux. Donc, évidemment, et ce sont les éléments officiels qui sont indiqués dans les registres des archives départementales, pratiquement commune par commune. Quand on regarde ces archives départementales, il y avait à cette époque-là à peu près 20% de maires de la Gironde qui étaient indiqués. Donc boulangiste, c'était peu après le général Boulanger, avec des petites possibilités de retourner à des régimes un petit peu forts, suivant les difficultés, ce qui est relativement classique. Et pour terminer dans cette partie-là, donc nous sommes retrouvés toujours dans le même esprit sur Sestas, en 1906, avec la période de la séparation de l'Église et de l'État, et puis ce qui a été la querelle des inventaires, où il fallait faire l'inventaire de ce qu'il y avait dans l'église, voire dans les presbytères. Sur Sestas, automatiquement, une partie de la population avait voulu refuser d'être présent pour les inventaires. Mon arrière-grand-père, qui était maire à cette époque-là, avait signé l'inventaire. Le curé était très, très mécontent. Mais la semaine après, donc, il mangeait chez nous. Et quelques mois après, était indiqué que le nouveau curé avait fait un tel suffisamment bon travail pour que les deux clans qui séparaient la commune se soient réunis. Et ce prêtre-là, ce curé, a en particulier beaucoup participé pendant la guerre de 14 pour animer un centre de convalescence de blessés. Donc voilà quelques éléments pour montrer un petit peu une certaine unité nécessaire dans des périodes de vie un petit peu compliquées de la communauté sestadaise, et qui, d'une certaine manière, continue en partie à exister. Alors, je voulais souligner un troisième point qui présente un sujet d'intérêt régional qui nous concerne tous, qui est la mise en valeur, si l'on veut, du massif de ce qu'on appelle les Landes de Gascogne. Au départ, comme vous l'aviez ici sur la carte qu'on présentait, les Landes depuis Bordeaux jusque pratiquement à Bayonne étaient dites les Landes de Bordeaux. Et après, bon, naturellement, ça a été dit, les Landes, vous voyez, les Landes de Bordeaux, nous, le secteur, mais enfin, j'y reviendrai dessus, et cette partie-là, comme activité de base, avait le fait d'être incinérée. C'était des Landes qui étaient très humides l'hiver et trop sèches l'été, et qui servaient de pâturage donc, aux troupeaux, avec des bergers montés sur échasses. Et par rapport à ces Landes, donc il y a une connaissance historique qui ne correspond pas forcément à la réalité, mais qui nous intéresse dans notre commune, dans la mesure où les forêts de Sestas ont été mises à valeur à partir d'une personnalité qui a été remarquée, qui s'appelle Jules Chambrelan. Un certain nombre de collèges de la Gironde porte le nom de Jules Chambrelan, parce que Jules Chambrelan a été considéré historiquement comme le créateur de la forêt des Landes de Gascogne. Alors évidemment, nous sommes fiers de cela, puisque en parallèle, disons, la forêt de Sestas, où il a pu faire ses plantations, a été mise en valeur. Qu'il y a eu également, il y a une centaine d'années, un très beau monument qui a été réalisé sur un de nos secteurs qui s'appelle Pierrotan, où d'ailleurs actuellement nous avons un centre de recherche extrêmement important sur le développement de la forêt, au niveau de l'INRA, le CTBA, et puis un centre de développement avec la coopérative agricole et forestière, où il y a 300 ou 400 personnes actuellement en tout. Donc nous sommes évidemment très fiers de cela. Mais par rapport à l'image et à l'histoire de création par Napoléon III de la forêt des Landes, et cette création pour assainir ce qui était vraiment mal utilisé avec les bergers et leurs troupeaux. Donc c'est important de montrer que ça ne correspond pas forcément à la réalité, historique. Nous avons donc un chapitre sur l'évolution des Landes de Gascogne qui conforte un petit peu des documents intéressants qui ont été réalisés en particulier par une famille de forestiers qui s'appelle Roger Sargos et dont le petit-fils, Jacques Sargos, a écrit des livres extrêmement intéressants, documentés sur Bordeaux avec de très très belles présentations. Et donc là-dessus, évidemment, Roger Sargos, qui était le grand-père, indique que la forêt de pins avait été plantée, existait depuis pratiquement toujours, et que c'était l'œuvre, évidemment, de beaucoup de générations de paysans landais. Alors les deux éléments qui sont indiqués, c'est de dire que la forêt de pins a été plantée pour assainir les Landes. Ce n'est pas le cas. Par contre, pour faire pousser les pins, il vaut mieux assainir. Et donc, sur Sestas, nous avons des indications d'ouverture de fossés depuis le Moyen-Âge, sur Sestas ou sur des communes comme Saint-Jean-d'Illac à côté, où sont indiqués des fossés de dessèchement ou en parallèle dans des actes anciens à partir du XVe siècle, marquant Crast écoulant les eaux de la Lande. Donc, où Ruisseau dit de la défuite, c'est-à-dire que ça sert à sortir les eaux de la Lande. Et ça, c'était fait pour permettre évidemment d'assécher un petit peu des secteurs en limite de zones humides par rapport aux petits ruisseaux et dans lesquels on pouvait, à partir du moment où c'était drainé, soit faire de la culture, soit éventuellement planter des pins. Et nous avons le nom relativement important d'un des anciens relais de poste qui s'appelle l'Estol, et qui était donc un point de relais sur vous l'avez ici sur la carte, pardon, là-haut. Depuis Bordeaux, c'est donc la route de la grande poste de Bordeaux à Bayonne, avec les relais de poste. On en a deux sur le territoire de notre commune. Le premier s'appelle l'Estol, là-haut. Le second, le Puche de la Gubatche, je reviendrai dessus. Après, le Barpe, etc. Et donc, l'Estol correspond au nom des planches de pin, les planches de pin en gascon, donc, qui permettaient de fermer les parcs à moutons, les granges, voire un certain nombre de maisons dans l'habitat ancien. Et à côté de ça, avait également le fait qu'à l'époque, on réalisait du charbon de bois, on avait également du goudron qui était indiqué comme un produit dans ce secteur-là où il y avait donc des piñadas naturels sur les parties un petit peu hautes en limite de la partie de Graves et puis de Landes. Et on a indiqué également que, assez rapidement, je vais aller assez vite, nous avions des cestadés qui avaient planté, semé et qui cultivaient des piñadas. Alors j'indique ça parce que Sargos également, ça fait partie des discussions aujourd'hui. Est-ce que donc c'est de la forêt cultivée? Et donc là-dessus, nous avons eu également dans notre histoire à la fois un développement donc de la forêt. Et puis des personnes importantes qui ont écrit dès les années 1700-1800 sur les possibilités de développement, mais d'équilibre entre la forêt et les cultures. Donc là-dessus, nous présentons à la fois comment cette forêt s'est développée, mais également ce qui a été des zones de culture, en particulier dès 1840, en particulier donc un dénommé Fieffé avait fait des essais de culture importants après avoir fait de l'irrigation dans la partie des Landes. Donc voilà quelques éléments sur un sujet qui est un petit peu particulier, étant entendu qu'ensuite, naturellement, il y a eu le développement de la résine. On parle du retour de la résine aujourd'hui, mais naturellement, il faut que tout ça soit équilibré au point de vue financier. Et enfin, sur ce sujet-là, il faut savoir que la forêt a été plantée à partir du moment où c'est ce qui présentait le plus de rapport, évidemment, pour ce qui le faisait. Après ça, sans aller trop loin parce que le temps passe, un élément sur lequel je voulais insister était la question donc des relations ville-campagne qui a toujours fait l'objet de discussions et d'équilibres. Donc, comme je le dis assez fréquemment, il est intéressant pour l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir éventuellement habiter dans des centres-villes, habiter en première couronne, habiter sur le bassin, habiter en zone rurale. Et l'article L110 du Code de l'urbanisme indique l'équilibre d'habitat entre les zones rurales et les villes. Et simplement quelques éléments là-dessus, donc dans ces relations ville-campagne, de rappeler qu'ici sur Bordeaux, un des premiers textes écrits de Strabon, qui était un auteur latin, indique que la peuplade qui est venue s'installer sur Bordeaux, qui s'appelle les Biturige Visvic, avait pu s'installer pour faire du commerce, étant entendu que les peuplades en place ancienne Aquitaine leur avaient permis de s'installer sans payer de tribut. Alors ça donne quelques petites idées sur, admettons, les premiers blancs qui se sont installés en limite de comptoir, en faisant des comptoirs sur les côtes de l'Afrique et autres. Bon, mais il fallait qu'ils fassent attention et il fallait qu'ils respectent éventuellement les voisins. Et ça, au départ, donc, cette tribu s'est installée dans Burdigala centrale, alors que tout autour, donc, il y avait quelques tribus aquitaniques et vraisemblablement, Cestas faisait partie d'une tribu qui était liée au pays de Cernès, qui allait pratiquement jusqu'à Langon, étant entendu qu'après, c'était Bazas et autres. Donc là-dessus, comme partout, ces Biturige Visvic, qui étaient les commerçants, ont pris le dessus sur leurs voisins, ce qui était tout à fait normal. Et au moment où les Romains sont arrivés et ont mis en place des divisions au niveau de l'ensemble de la France, a été mis en place donc une civitas, une cité, mais qui a compris à la fois évidemment la ville, mais une partie importante de pays autour, le Médoc et autres, étant entendu que, je dis, le Bazadais restait une cité à part entière avec Bazas, et le Buc restait également une cité à part entière. Donc ça a été la civitas Burdigalensis. Et là-dessus, nous avons eu, donc sur Cestas, un élément, puisqu'on était en limite de la cité de Bordeaux par rapport au pays de Buc, avec un endroit qui s'appelle maintenant Croix d'Ins, et qui vient de Ins avec un H, c'est une déformation en gascon, et qui vient de Finesse, la fin, et c'était la limite du territoire donc de Bordeaux, du Bordelais, si on veut, par rapport au pays de Buc, avec une borne milière qui a été déterrée à une certaine époque. Donc, c'est un élément de limite relativement intéressant. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, dans ces relations ville-campagne, Après les périodes difficiles des Normands, et en particulier à partir du XIe, XIIe siècle, les campagnes commençaient à bien tourner et ont servi à peupler les villes. Ils sont venus un petit peu au secours de la ville. À ce moment-là, les villes se sont pas mal développées et naturellement, les campagnes servaient à alimenter les marchés des villes. Et nous avions en particulier la vente de veaux, de charbon, de briques, de tuiles. Et dans le fin du 19e et du début 20e, des lavandières, il y a eu jusqu'à une quarantaine de lavandières qui étaient sur la commune, comme sur des communes voisines de Léognan, et qui portaient le linge, qui nettoyaient le linge et qui portaient le linge à Bordeaux. Après, dans cette relation ville-campagne, vous le savez, la ville de Bordeaux s'est organisée en mettant en place une jurade, des statuts et une jurade. Et la jurade, ce qui était normal, a essayé de pouvoir régner sur le plat pays. Et donc, le plat pays, nous faisions partie de ce qui s'appelle le comté d'Ornon. Et quand les Français, pendant une dizaine d'années, ont envahi, disons, ou ont pris le pays bordelais, donc une période de troubles, à ce moment-là, pendant 10 ans, la jurade de Bordeaux a usurpé le comté d'Ornon, avec quelques difficultés, entre 1294 et puis 1304, pendant 10 ans. Et après, quand le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, est revenu, automatiquement, les bonnes limites se sont remises en place. Ensuite, la ville de Bordeaux, la jurade de Bordeaux, a acheté la comté d'Ornon, un siècle plus tard, avec à ce moment-là les textes qui disent que les Cessadés sont retrouvés avec des corvées et servitudes relativement importantes. Ensuite, dans ces relations ville-campagne, il y avait naturellement, puisque la jurade de Bordeaux était à ce moment-là seigneur d'Ornon, sur les armes de Bordeaux, il y a donc une couronne de comte qui correspond au comté d'Ornon. Ils avaient droit à leur banc des jurats dans l'église. Et à ce moment-là, on a eu un problème sur Cestas, qui a été le fait que, comme les landes communes qui servaient aux bergers pour le package des moutons pouvaient à ce moment-là être mises en valeur, d'une certaine manière, il y a eu des concessions énormes qui ont été faites par la jurade de Bordeaux en divisant, en lotissant, si on veut, avec des morceaux qui allaient d'une centaine d'hectares jusqu'à plusieurs centaines d'hectares, toute la lande de Cestas. Et a priori, à 90% vis-à-vis de négociants ou de bourgeois de Bordeaux, en ayant rayé sur les actes le fait que c'était d'anciennes landes communes. Parce qu'à partir du moment où c'était commun, ils ne pouvaient pas forcément les distribuer comme ça parce que ça appartenait à la communauté. Alors, au moment de la Révolution, parmi les doléances relativement importantes dans tout le secteur des Landes étaient que les seigneurs ou que les communautés retrouvent la propriété de ces anciennes Landes. Ça a été possible à Saint-Jean-d'Illac, en partie possible à Socas qui est à côté, mais pratiquement pas du tout possible à Cestas. Donc, il n'y a pas pu avoir de restitution des communaux. Par contre, dans les doléances, était demandée la suppression des droits pour vendre les agneaux en arrivant sur le marché de Bordeaux ou pour vendre du charbon en arrivant sur le marché de Bordeaux. Et on s'est retrouvé dans ce cadre-là avec une partie des Landes qui étaient redevenues quand même communes parce qu'elles avaient été concédées d'une manière noble à un maire perpétuel de Bordeaux qui était le vicomte de Noé. Sous Louis XV, mais, et là je ne connais pas l'explication précise, sur le cadastre, le premier cadastre napoléonien, c'est indiqué le nom du préfet et le nom du maire qui est indiqué est M. de Montbadon. Et ce monsieur-là n'était en aucune manière le maire de Cestas, c'était le maire de Bordeaux. Alors, ces landes qui auraient dû être marquées communales ont été marquées landes impériales et ont été ultérieurement vendues. Donc en vente publique, mais au profit de l'État et non pas, comme dans d'autres communes, au profit de la commune. Alors ce sont des éléments sur lesquels on ne va pas revenir évidemment aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir qu'au niveau la première réunion du Conseil général en 1790, parmi ce qui était indiqué dans cette première séance, était indiqué en particulier, il faut surtout affranchir les campagnes de cette ancienne domination des grandes villes. Alors naturellement, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et sur ce sujet-là, je veux indiquer que dans le courant du XXe siècle, il n'y a pas eu de problème particulier avec les maires de Bordeaux, en particulier deux. Un qui a été maire entre les deux guerres et avant la période de la guerre, qui était Adrien Marquet. Donc, se trouve que mon arrière-grand-père avait été maire un petit moment et mon grand-père s'occupait un petit peu. Et à cette époque-là, comme ils se retrouvaient dans certains cercles républicains, donc Adrien Marquet a demandé et obtenu qu'on lui mette à disposition un terrain pour accueillir un centre aéré pour des jeunes de Bordeaux qui avaient évidemment un plaisir à venir prendre le grand air dans notre commune, ce qui est évidemment toujours le cas. Et le deuxième élément a été évidemment avec Jacques Chambon-Delmas, mon prédécesseur, avec des relations proches, parce qu'ils étaient, je le dis avec un petit clin d'œil, radicaux socialistes au départ, l'un comme l'autre. Et personnellement, bon, moi j'avais eu de bonnes relations également avec Jacques Chambon-Delmas, dans la mesure où au départ il était président quand on a mis en place un schéma directeur sur la grande aire métropolitaine bordelaise, c'est-à-dire Bordeaux, la Cube, et puis un certain nombre de communes tout autour. Chaban en démarrant, disant naturellement, moi je préside cette commission qui établit ce schéma, donc moi je représentais un certain nombre de communes en 1972, c'est-à-dire Saint-Jean-d'Illac, Martignas, Sestas, Canéjean, dans ce secteur-là, et Chaban disant naturellement, bon, vous savez, la métropole, c'est l'ensemble de la grande aire métropolitaine. Donc c'est un petit clin d'œil que je fais, et en disant naturellement, on travaille dans le respect des uns des autres. Donc voilà un petit peu quelques éléments sur les relations entre ville et campagne. Et simplement, donc, pour terminer un petit peu sur les événements tragiques et deux, trois anecdotes. Donc, il faut savoir les événements tragiques. Nous avons un chapitre sur les deux guerres avec, vous savez peut-être, un jeune Sestadé qui a été nommé par le général Koenig à la libération, donc premier résistant de Bordeaux, qui est Marc Nouveau. Vous savez qu'il y a des rues Marc Nouveau dans ce secteur, qui avait fait un travail absolument remarquable et qui a été tué par les Allemands. Et puis, un officier né à Sestas pendant la guerre de 14, qui raconte pendant pratiquement les 4 ans de guerre ce qu'il avait fait, qui a été tué en 1918, avec un de ses oncles qui était ministre au départ, disant que la guerre allait durer quelques mois en 1914. Et en 1917, cet officier qui écrit « Ce 18e corps embusqué vient de prendre sa revanche et a montré ce qu'il pouvait faire à tous ceux qui lui jetaient la pierre, parce qu'il était du midi. » Alors ce sont des éléments qui sont intéressants à savoir, parce que ça correspondait à des réalités de visions différentes entre la France du Nord et la France du Midi jusqu'à la guerre de 14. Ce sont des éléments qu'on n'a pas en tête, mais c'est intéressant quand on voit dans des écrits spécifiques de personnes engagées là-dessus. Et dans ces événements tragiques, évidemment, vous le savez, nous avons eu l'incendie du 20 août 1949, où il y a eu près de 30 000 hectares qui ont brûlé, avec 82 morts. Vous avez entendu cette année où on avait parlé d'un feu à Lacanau qui représentait 600 hectares. Il faut voir que ce qui a brûlé en deux jours faisait 50 fois plus. Donc les conditions étaient évidemment épouvantables. Ce sont des éléments qu'il faut toujours avoir en tête. Et là-dessus, par contre, nous avons évidemment à remercier la solidarité nationale qu'on a retrouvée dans ce cadre-là. Et puis, pour terminer, deux anecdotes. Donc, nous avions des relais de poste, j'en ai parlé, sur le territoire de notre commune. Et nous avons eu ensuite un chapitre qui correspond à la poste. Après les relais de poste, le télégraphe CHAP et la mise en place du téléphone. À la fin du 19e siècle, il y a eu un service public qui s'est mis en place des PTT. Et pour mettre le téléphone, ils ont demandé des participations des communes concernées. Là-dessus, nous étions concernés avec Talence, Gradignan, Léognan et puis Sestas. Et les maires étaient susceptibles de faire des souscriptions. La commune de Léognan avait fait une souscription en demandant à pratiquement tous ses concitoyens de payer quelque chose, évidemment, ça avait traîné beaucoup. Alors, un dimanche, il y a eu une réunion du conseil municipal de Sestas, et un des membres du conseil municipal de Sestas, qui était donc agent de change sur Bordeaux, mais qui habitait une bonne partie du temps à Sestas, donc à l'ancien relais de poste dans le château qu'il avait fait à cet endroit-là, l'Estol, donc écrivait au maire, qui était Armand Montmartin, à cette époque-là, le premier industriel de la forêt des Landes, si on veut, en lui disant, bon, il faudrait faire quelque chose parce que ça traîne le téléphone, et c'est la faute de Léonien. En disant, mais le maire, qui était M. Ricard, propriétaire de pas mal de châteaux de Léognan, aurait mieux fait, au lieu de faire un appel à une souscription de l'ensemble des habitants, de demander à 4 ou 5 grosses caisses de Léognan, cette commune riche, il n'en manque pas dans la commune. Et en terminant, que s'il fallait, il pouvait très bien payer tout seul, sa fortune lui permettant bien. Voilà quelques petits sujets amusants que nous avons dans notre secteur. Et après, j'indiquais aussi en démarrant, comme toujours je parlais d'octroi, nous avons eu donc une attaque de diligence le long de la route de Bayonne, qui est vers la période de la Révolution, où ils n'ont pas fait grand mal, ils ont simplement dépouillé les voyageurs. Et j'indique ça parce que est également signalé, comme dans pas mal d'endroits, sur Gazinet, il y avait un bois de feuillus qui servait de refuge aux bergers pour l'été, que les troupeaux soient un petit peu à l'abri du soleil, mais qui servait un petit peu de refuge éventuellement à certains bandits de grand chemin. Alors j'indique qu'ils ne faisaient que demander un petit peu de péage aux gens qui passaient depuis Bordeaux jusqu'à la Teste pour porter le poisson ou les produits de la forêt. Et puis le dernier point, donc dans notre présentation, on avait ici présenté donc Sainte Alphonsine, qui était donc canonisée par l'Église gallicane, qui est, disons, un rite de l'Église catholique, ou une secte de l'Église catholique, si on veut, mais on peut plutôt parler de rite, mais qui est également, qui était donc une grande guérisseuse, dont, qui avait eu une renommée jusqu'à Paris, qui avait beaucoup de clients pendant toute la journée. Le poète italien D'Annunzio a écrit sur son ami des Landes, et donc cette guérisseuse était appelée la sorcière de Gazinet, parce qu'elle pouvait avoir à la fois des dons de guérisseuse, mais éventuellement, vous savez, les guérisseurs ou les sorciers pouvaient jeter des sorts et des éléments comme ça. Et alors c'est amusant parce que donc François Mauriac, dans un de ses livres, cite la sorcière de Gazinet pour faire peur à un des petits ados dont il raconte l'histoire, en lui disant qu'il va aller la montrer à la sorcière de Gazinet. Donc voilà quelques petits points. Et puis le dernier pour terminer, nous sommes fiers évidemment, puisqu'aujourd'hui on parle de développement durable et puis d'énergie renouvelable. Nous avons eu sur la commune de Sestas, grâce à un Bordelais qui habitait à Gazinet une grande partie de l'année, qui était Wolf Stoppner, là nous avons eu donc des douches qui ont fonctionné avec la captation de soleil, donc avec un système solaire, qui ont été établis en 1937 et qui permettait évidemment que nos concitoyens se livrent à des exercices d'hygiène qui étaient évidemment intéressants. Et je remercie M. Sobner, qui a été président des commerçants de Bordeaux pendant un moment, qui m'a envoyé quelques éléments complémentaires pour présenter ça dans notre livre. Vous me permettrez donc de remercier la vingtaine de membres de l'équipe qui ont travaillé donc à ce livre, où nous avons essayé évidemment de faire une présentation ouverte, avec des récits également sur la vie du quotidien, sur les lavandières, sur la vie dans les briqueteries, hein, puisque nous avions de l'argile, donc on avait des briqueteries qui amenaient des briques jusqu'à Bordeaux, avec un chemin qui était marqué allant chemin dit Tuilier, ce qui veut dire le chemin de la Tuilerie, allant de la Tuilerie de Paye-Martin, c'est celle qui a été la plus connue, et jusqu'à Bordeaux. Donc il y avait un chemin spécifique qui rejoignait la voie romaine et qui permettait aux tuliers, aux bouviers de transporter les tuiles. Donc nous avons les récits un petit peu également au XXe siècle de la vie de la Tuilerie. Et puis nous avons avec nous également donc quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui est Monsieur Ousty, qui doit être par là avec son épouse, à la fois sur la vie de la paroisse et sur les conditions de vie, en particulier pendant la période de la Deuxième Guerre. Voilà quelques éléments. Je vous remercie de votre attention. Donc je pense que, comme je l'ai indiqué, il y a à la fois du quotidien de la vie de Cestas, mais des éléments qui s'inscrivent évidemment à la fois dans l'histoire de notre département et sur certains points dans l'histoire de la région et de notre pays. Voilà ce qu'on a essayé de faire ensemble. Merci de votre attention et de votre présence, et puis bonne lecture pour ceux qui le partageront.